I'm turning today to Paul's first letter to the Thessalonians, chapter 5 and verse 12.
Je vous invite à ouvrir la parole de Dieu aujourd'hui dans la première lettre de Paul aux Thessaloniciens, chapitre 5, verset 12. 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 12. Or, nous vous prions, frères, d'avoir en considération ceux qui travaillent parmi vous et qui président sur vous selon le Seigneur et qui vous exhortent. Et nous arrivons ici à un abrégé de Paul sur la conduite d'un croyant. C'est un passage remarquable. L'apôtre Paul peut être si concis. Il parle bien sûr sous l'inspiration de Dieu, mais quand il choisit d'être concis, il peut exprimer ces choses de manière si abrégée. Et nous voyons ceci dans ces versets qui suivent. Et ceci est un trésor plein d'exhortations concises. Voici là toutes nos responsabilités en peu de versets. Quand vous voyez ces versets, vous ne pouvez pas vous empêcher de penser à ces grands hommes du XVIIIe siècle qui allaient faire ces grandes listes de responsabilités d'un chrétien. Et ces listes si profondes également, comme Jonathan Edwards, et ces 70 résolutions, comme beaucoup d'entre vous ont pu les lire. Et en tant que jeune homme, il a écrit toute cette liste et il a décidé de suivre ces résolutions extraordinaires. Mais sous l'inspiration de Dieu, et ceci n'est pas une critique de ce que Jonathan Edwards a écrit, mais ici, vous avez un concept identique, un abrégé sur la conduite d'un croyant, mais en quelques versets. Et ceci est facile à mémoriser et également très pratique. Et vous pouvez mettre ces choses même à l'arrière de votre Bible et vous en souvenir. Mais une résolution de 70 points, ceci est long et c'est difficile de s'en souvenir. Ainsi, ces versets sont si extraordinaires. Et ceci commence avec une exhortation, un fondement. Or, nous vous prions, frères, d'avoir en considération ceux qui travaillent parmi vous et qui président sur vous selon le Seigneur et qui vous exhortent. C'est là un résumé du caractère d'un chrétien à partir du verset 12 jusqu'à la fin du chapitre. Et nous en arrivons au verset 12. Or, nous vous prions, frères, d'avoir en considération ceux qui travaillent parmi vous. Le premier conseil, c'est laissez-vous enseigner. Soyez enclin à écouter. C'est la volonté de Dieu qu'il y ait des enseignants dans l'Église. Nous vous prions, frères, d'avoir en considération ceux, de les reconnaître, d'être prêts à écouter, d'avoir en considération ceux qui travaillent, de les accepter. C'est là la première exhortation que Dieu a ordonné le fait qu'il y ait des enseignants dans l'Église de Christ. L'apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens chapitre 12 et au verset 28, avec cette liste de ceux qui enseignent dans l'Église, les apôtres, ceci était uniquement pour le début de l'Église. Mais il y a ces enseignants qui sont là mis à part par le Seigneur. Reconnaissez ceci, dit l'apôtre Paul, acceptez cela. On nous dit que la culture d'une ville comme celle des Thessaloniciens était que dans ces temps d'idolâtrie, avec leur polythéisme, il y avait une société dictatoriale et l'attitude générale des gens était de ne pas accepter les enseignants ou les conducteurs d'une église. Mais ceci est différent dans l'Église de Christ. Or, nous vous prions, frères, d'avoir en considération ceux qui travaillent parmi vous, qu'il y a le conducteur de l'Église que le Seigneur a mis à part, et reconnaissez cela, acceptez cela et coopérez avec la personne. Ainsi, il écrit cela. Or, frères, nous vous prions d'avoir en considération ceux qui travaillent parmi vous. C'est là la volonté de Dieu, c'est là le modèle qui est donné par l'Écriture, les règles pour mettre à part les enseignants dans l'Église. Et là, dans Hébreux 13, où ceci est peut-être un peu plus fort, même il y a deux versets dans Hébreux 13, versets 7 et 17. Au verset 7, « Souvenez-vous de vos conducteurs. » Je vais parler de ce terme « conducteur » dans un moment, « qui vous ont annoncé la parole de Dieu et considérant l'issue de leur vie, imitez leur foi, leur conduite. » Et au verset 17, « Obéissez à vos conducteurs. » Et nous allons considérer ce terme « obéissez » et « soyez-leur soumis, car ils veillent sur vos âmes, comme devant en rendre compte, afin qu'ils le fassent avec joie et non en gémissant, car cela vous serait préjudiciable. » Ce terme, traduit par « obéissez » ici, dans Hébreux 13, signifie « soumettez-vous, soyez convaincus de ». Ce n'est pas « obéir » dans le sens où nous utilisons ce terme de nos jours, « faites ce qu'on vous dit ». Non, c'est différent, c'est « soyez convaincus par ». En d'autres termes, ils ne parlent pas par leur propre autorité, ils ne donnent pas leur opinion propre, ils n'exercent pas cette autorité personnelle sur quiconque, mais ils enseignent la parole de Dieu et soyez prêts à être convaincus par leur enseignement. Autant que ceci vient clairement de la parole de Dieu, et si le conducteur et l'enseignant est fidèle à la parole de Dieu, alors soyez enclins et bien disposés pour écouter, pour obéir, pour reconnaître cela, parce que le conducteur enseigne et proclame uniquement ce que Dieu a dit avec autorité dans sa parole. Il n'a pas d'autorité en lui-même, par lui-même. Il n'a pas de supériorité sur vous en ce sens-là, mais il est simplement un enseignant de la parole. Ainsi, ce terme « obéissez » dans Hébreux 13 signifie « soyez convaincus par lui ». C'est ce terme « être convaincu » ou « soyez agréable » si vous voulez. Et 1 Thessaloniciens 5, verset 12, « Or nous vous prions, frères, d'avoir en considération, de reconnaître ceux qui travaillent parmi vous, soyez enclins à écouter. » Bien sûr, ce passage ne parle pas d'un enseignant qui est hérétique et qui erre, mais si l'enseignant enseigne la parole de Dieu, alors reconnaissez cette personne et soyez prêts à être aidés par cette personne, enclins à écouter. C'est là le fondement dans cette liste de responsabilités d'un chrétien. Soyez enseignable, laissez-vous enseigner. Cela ne signifie pas d'être soumis à une autorité personnelle, mais à être enseigné par la parole de Dieu. Or, nous vous prions, frères, d'avoir en considération ceux qui travaillent parmi vous. Ils travaillent, et ce terme « travailler », c'est un terme pour un labeur important. Ainsi, l'enseignant doit travailler dur dans son ministère, sinon il ne devrait pas enseigner la parole. Ainsi, considérez ceux qui travaillent dur parmi vous, si vous voulez, et qui président sur vous ou se tiennent devant vous en grec selon le Seigneur, dans le Seigneur. Ils représentent le Seigneur et sa parole, et ils le font avec humilité, avec fidélité. Et tout en vous doit être bien disposé pour se laisser diriger et aider par ces personnes, non pas seulement dans l'enseignement des doctrines, mais également dans l'exhortation. Et ceux qui vous exhortent au verset 12, c'est-à-dire qu'ils mettent ces choses dans votre esprit, dans votre pensée, et cela se réfère au terme « exhorter ». C'est là la première de nos responsabilités, la première responsabilité. Cela continue au verset 13. Et nous allons considérer ces choses de manière très simple, et d'avoir pour eux le plus grand amour à cause de leur œuvre. Et ce terme « estimer », c'est simplement ce terme « considérer » ou « aimer ». Et d'avoir pour eux le plus grand amour, une estime pour eux, de les honorer, d'avoir une bonne opinion, de les aimer, le plus grand amour à cause de leur œuvre. Cela ne signifie pas « élevez-les » ou « faites d'eux des héros », non, rien de la sorte, mais cela signifie de les considérer avec plein d'amour à cause de leur œuvre. En d'autres termes, c'est pour le Seigneur, et c'est pour vous, et c'est pour le bien de l'Église de Christ qu'ils œuvrent. C'est là la première responsabilité, d'être prêt à écouter, à prendre les choses au sérieux, ce qui est enseigné. Bien sûr, uniquement si ceci vient de la parole de Dieu, et d'avoir plein d'amour pour l'enseignant. La plupart des enseignants dans l'Église de Christ, je ne parle pas de ces enseignants hérétiques de la prospérité et qui font plein d'argent, mais non, la plupart des enseignants dans l'Église de Christ dans tout le monde sont probablement pauvres, modestes, et ils ont laissé de côté beaucoup de réconfort de la vie pour pouvoir exercer le ministère que le Seigneur leur a demandé d'exercer. Et pour leur œuvre, pour ce qu'ils font, soutenez-les autant que possible et soyez en paix entre vous. C'est là une deuxième pensée. Ainsi, le premier point, c'est l'enseignement dans l'Église et de se laisser enseigner. Et au verset 13, à la fin de ce verset, voici la deuxième grande responsabilité, le deuxième point de l'apôtre Paul. Soyez en paix entre vous. Soyez réconciliés et conciliants, non pas hostiles l'un envers l'autre, non pas difficiles, non pas froids, mais soyez ceux qui amènent la paix, comme l'une des traductions modernes le dit ainsi. Soyez ceux qui amènent la paix. Ce n'est pas une traduction parfaite, mais c'est là le sens. Soyez quelqu'un qui est plein de compassion, de bonté et qui forme des ponts. Et soutenez les autres et supportez et soyez approchables. Appréciez les autres autant que possible. Et que ce soit là votre disposition, une bonne disposition, que d'être bon, d'être chaleureux et d'aimer la paix, d'être agréable, d'être contre les commérages, qui est l'opposé de ceci. Ainsi, si la première grande responsabilité pour la vie chrétienne, c'est d'être enseignable et prêt à être enseigné, le deuxième point, c'est de promouvoir la paix parmi vous, dans l'Église, et également envers ceux qui sont en dehors. Soyez en paix entre vous, et nous nous examinons nous-mêmes. Est-ce que nous sommes ainsi ou est-ce que parfois nous sommes difficiles, impatients, sensibles, froids et nous ne mettons pas tous nos efforts pour être en paix avec les autres? Peut-être nous ne faisons pas attention et peut-être nous passons à côté des gens sans leur dire bonjour. Parfois nous faisons ceci sans réaliser, mais nous devons faire attention. Est-ce que je suis en paix? Est-ce que je suis approchable, ceci est inclus ici également. Est-ce que je suis chaleureux, amical? Et c'est là le deuxième point dans cette liste de l'apôtre Paul, cet abrégé de Paul sur la conduite d'un croyant. Et au verset 14, il y a un troisième point. Nous vous en prions aussi, frères, et ceci n'est pas uniquement pour les pasteurs, c'est pour chacun d'entre nous. Reprenez ceux qui sont déréglés. C'est une responsabilité négative. Parmi les gens de l'Église, certaines de ces responsabilités sont aussi pour les gens de l'extérieur, mais ici, c'est pour les membres de l'Église. Nous vous en prions aussi, frères, c'est pour les chrétiens. Reprenez ceux qui sont déréglés ou avertissez ceux qui sont déréglés. Reprenez, ici, c'est ce terme, avertir. Plein d'amour, bien sûr, mais c'est de mettre à l'esprit et d'avertir les gens, ceux qui sont déréglés, de ce qu'ils font. Même si nous devons être pleins d'amour, il y a parfois des gens qui sont en dehors du chemin, qui sont difficiles ou qui ne sont d'accord avec rien. Même parmi les chrétiens, oui, parfois, ils sont contre tout ce que vous leur dites, où ils font leurs propres choses de leur propre côté, que ce soit des gens qui simplement ne servent pas le Seigneur comme ils le font, les chrétiens parfois. Et nous voyons ceci deux ou trois fois dans les deux épîtres aux Thessaloniciens, en particulier dans 2 Thessaloniciens, ceux qui sont déréglés dans le sens où ils ne travaillent pas, ils sont inactifs, mais ils ont été convertis. Peut-être qu'ils ont perdu leur travail parce qu'ils se sont convertis. parce qu'il faisait partie d'un ensemble d'artisans, d'un corps de métier qui était idolâtre. Et ainsi, pour être membre de ce corps de métier, vous deviez aller aux festivités des idoles. Et à cause de leur conscience, ils ne pouvaient plus faire cela. Mais peut-être qu'ils n'ont pas cherché d'autre travail après cela. Peut-être certaines personnes pensent que c'est bon de ne pas faire d'efforts pour chercher un autre travail. Il semble qu'il y avait ce problème-là à Thessalonique, dans l'Église. Parce que ceci est mentionné deux ou trois fois dans ces deux épîtres. Et ceci n'est pas juste et serait déréglé. Mais également, quelqu'un qui peut-être est converti et qui décide tout d'un coup qu'il n'écoute plus, mais qu'il enseigne. Et il décide qu'il peut être un prédicateur et enseigner. Ils avaient également ce problème dans le Nouveau Testament. Il y a plusieurs références à cela, comme vous le savez. Ceux qui enseignaient, alors que le Seigneur ne les a pas appelés à faire cela, ceci serait également déréglé, ou des personnes qui disaient des choses qui n'étaient pas justes, et détruisaient la paix dans l'Église, ou toutes sortes de choses. Ici, vous ne pouvez pas simplement vous taire et ne rien dire, mais c'est là notre responsabilité d'avertir, de reprendre ou d'aider ceux qui ont erré du chemin dans une attitude déréglée, en grec déréglée, sous une forme ou une autre. Nous vous en prions aussi, frères, reprenez ceux, avertissez ceux qui sont déréglés. Il y a quelque chose de négatif ici et c'est notre troisième point. D'être sincères l'un avec l'autre quand nous sommes dans le mauvais chemin. Et voici le quatrième point, qui est également au verset 14 et qui est assez différent. Consolez ceux qui ont le cœur abattu. Je dois reconnaître que notre traduction est plutôt pauvre ici. Ceux dont le cœur est abattu. Ce n'est pas tout à fait juste parce que cela suggère ceux qui sont simples, ou qui ne sont pas équipés mentalement d'une certaine manière, ceux qui sont faibles dans leur esprit. Mais en grec, c'est la personne avec une petite âme en grec. Qu'est-ce que cela signifie? Une personne avec une petite âme, c'est quelqu'un qui manque d'assurance, qui est anxieux par rapport à son salut, qui est découragé, qui est enclin à s'inquiéter dans la vie. Ne dites pas simplement « Oh, faites vos efforts, vous devrez avoir plus de foi. » Non, réconfortez ceux qui s'inquiètent, ceux qui manquent d'assurance. Peut-être un jour vous serez dans la même position. Si vous souffrez, que vous expérimentez quelque chose de difficile, peut-être vous allez avoir besoin de réconfort un jour. Réconfortez la personne qui, juste pour un petit moment, est une petite âme qui manque d'assurance, et réconfortez ceux qui ont le cœur abattu. Nous nous soutenons, nous sommes pleins de compassion. Ainsi, alors que nous reprenons ceux qui sont déréglés, nous réconfortons ceux qui ont le cœur abattu et nous soutenons les faibles. En grec, ce terme « supporter », c'est soutenir, c'est ce soutien physique, non pas littéralement, comme si quelqu'un est près de tomber et avec le poids de votre propre corps, vous soutenez cette personne, vous l'empêchez de tomber ou vous retenez quelqu'un peut-être qui a été déchiré par un vent puissant. C'est là le terme supporter, supporter les faibles. Les faibles, c'est ceux qui n'ont pas de force, qui manquent de force pour différentes raisons. Supportez-les, aidez-les, soutenez-les. Il y a ces deux exhortations ici qui sont comme une exhortation. Le quatrième point, la quatrième responsabilité du croyant, c'est de réconforter et de soutenir ceux qui ont le cœur abattu et qui manquent de force. C'est là ce que nous faisons, nous ne méprisons personne, parce qu'un jour ça pourrait être nous. Et nous voyons à présent le cinquième point, la cinquième responsabilité qui est là, au verset 14. « Et soyez patients envers tous. » Littéralement, c'est « Ayez beaucoup de patience, supportez patiemment chacun. Ne soyez jamais dur, colérique, insultant personne. » Mais soyez patients envers tous. L'impatience a un effet terrible sur nous. Si nous prenons l'habitude d'être impatients, et c'est facile de prendre l'habitude, si facilement vous pouvez développer cette tendance d'être impatient, et tout vous irrite. Et ces choses qu'une autre personne fait à la maison ou autour de vous, peut-être ceci est irritant, mais si vous vous laissez être impatient, ceci va enflammer votre orgueil. L'impatience met en avant votre orgueil. Oh, je suis meilleure que cette autre personne. Je suis impatiente avec cette personne parce que moi, je ne ferai pas ces choses et ceci enflamme mon orgueil. Je ne devrais pas avoir une personne qui m'embête avec un comportement frustrant à côté de moi. Ceci met en avant mon orgueil. Et non seulement cela, mais ceci gâche notre nature et nous rend amers. Et nous devenons amers en d'autres aspects également. Et ceci nous gâche notre témoignage vis-à-vis de ceux qui ne sont pas sauvés. Et nous n'avons pas de profondeur, de force en nous si nous nous mettons en colère. Et ce n'est pas bon pour notre témoignage que de laisser notre impatience s'élever et rentrer dans notre vie. Soyez patients envers tous. Et nous continuons au verset 15. Et nous avons ici un sixième point, une sixième responsabilité. Prenez garde que nul ne rende à personne le mal pour le mal. Et à présent, on est en dehors de l'Église. Pour les chrétiens, pour les non-chrétiens, prenez garde que nul ne rende à personne le mal pour le mal. Prenez garde. Dans notre traduction, faites attention ou voyez. Prenez garde. En grec, c'est profond. Veillez de toute votre force. Veillez à ce que nul ne rende à personne le mal pour le mal. La tendance est tellement importante. Décourager d'autres personnes à rendre le mal pour le mal et également pour vous-même. Le mal pour le mal envers personne. Mais la vengeance est la nature humaine. Nous ne voulons pas accepter cela, mais d'avoir un esprit de vengeance, c'est là la nature humaine et c'est là un grand test pour nous, un défi. N'ayez jamais un esprit de vengeance, ni en pensée, ni en acte. Et enlevez ces pensées de votre esprit. Oh, j'aimerais que cette personne souffre autant qu'elle m'a fait souffrir. C'est là le sixième point qui vient directement du sermon sur la montagne. Prenez garde que nul ne rende à personne le mal pour le mal. Ne le faites pas. Ne faites pas cela, ne désirez pas cela. Et cela est particulièrement difficile pour les Thessaloniciens parce qu'ils étaient sujets à la persécution pour leur foi. Et nous ne sommes pas sujets à la persécution. Mais aucune vengeance, d'aucune manière. Ne parlons pas ici de quelqu'un qui fait du mal à votre femme, à vos enfants dans la rue, et si vous vous défendez, non, nous ne parlons pas de ces circonstances, mais nous parlons de ces circonstances où vous n'avez pas besoin de vous venger ou de répondre. Et après cette sixième responsabilité, il y a ce septième point qui est positif, là, à la moitié du verset 15, « Mais poursuivez toujours le bien, soit entre vous, en tant que croyants, soit envers tous les hommes. » Et à nouveau, ceci est étendu à tous les hommes. Poursuivez toujours le bien, sans exception, sans jamais aucune exception. Ceci ne se réfère pas au temps, toujours, mais à toutes les circonstances. En toutes circonstances, en toute situation, dans ce sens-là, poursuivez le bien. Ce terme « poursuivez » dans l'original grec implique cet effort de poursuivre. En grec, là, ce terme « poursuivre », c'est contre le courant, contre toute difficulté, de tout votre cœur, de tous vos efforts, poursuivez toujours le bien. Parce que ceci n'est pas naturel. avec cette nature humaine qui a chuté loin de Dieu, que de pouvoir considérer le bien que vous pouvez faire, être sensible pour les besoins des autres, pour leurs situations difficiles, d'être toujours prêt à répondre et à aider, ceci est un effort important. Et si nous faisons cet effort, où il y a certains chrétiens qui le font de manière naturelle, auparavant ce n'était pas naturel pour eux, mais ils l'ont fait depuis tant d'années que c'est presque automatique pour eux, et nous les connaissons, ceux qui dans toutes circonstances, presque instinctivement, essayent de trouver comment aider et faire le bien. Et ils ont mis en pratique cet art d'aider les autres, de soutenir les autres et ces bonnes œuvres entre vous et envers tous. C'est là le septième point. Ces bonnes choses, faire le bien. Et ensuite, au verset 16, nous arrivons à ce huitième point. Soyez toujours joyeux. C'est là une exhortation que nous trouvons tant de fois sous différents aspects dans le Nouveau Testament. Soyez toujours joyeux dans le bonheur, la joie. Bien sûr, vous vous réjouissez. Mais le problème, c'est que peut-être que nous ne nous réjouissons pas toujours. Si tout va bien, que nous sommes bénis, que nous sommes pleins d'assurance, c'est certain. Et vous avez eu de bonnes surprises. C'est un beau jour, peut-être, et tout se passe bien. Et vous êtes heureux. Mais vous ne remerciez pas Dieu et vous ne vous réjouissez pas consciemment en lui parce que c'est lui qui donne toutes les bénédictions. Ainsi, nous devons nous souvenir de nous réjouir dans les bons jours et également dans les difficultés. Au lieu de ressasser ces choses dans notre esprit, remerciez Dieu dans la maladie, même dans le deuil. Ayez cette joie même en parallèle de ces difficultés, de ces pensées difficiles, de ce deuil. Mais remercier le Seigneur, c'est là la responsabilité d'un chrétien que de se réjouir dans le Seigneur. Et nous pensons à la croix du calvaire, nous pensons au salut, nous méditons sur ces choses, sur le fait que le Seigneur nous a donné la lumière, la compréhension. Il a émancipé notre esprit et nous nous réjouissons dans cette nouvelle nature qu'il nous a donnée. Nous nous réjouissons pour toutes ces bénédictions spirituelles et temporaires et nous méditons sur ces choses. Et nous avons une forme de joie, même quand nos circonstances nous amènent à des situations difficiles. Et c'est là notre dette envers lui. Il nous a donné ces bénédictions. Nous devrions toujours être reconnaissants pour ces bénédictions. C'est essentiel pour notre perspective. Si nous ne nous réjouissons pas, alors toutes ces choses en temps de difficulté semble gris et sombre et impossible et difficile et injuste. Et nous avons ces perspectives, nous voyons ces choses de la bonne manière et ainsi nous réagissons mieux face à ces difficultés. Et c'est essentiel pour prier. Nous ne pouvons pas prier sans nous réjouir en lui. Ceci nous fortifie également. Et il y a bien des années, un frère américain, un docteur qui était là avec nous. Et il m'a raconté que quand il était un étudiant en médecine, il a dû aller dans ce département de psychiatrie. C'est là ce qu'il a fait. Il était sauvé il y a peu de temps auparavant. Il était dans une bonne disposition. Il y avait parmi les patients, là, c'était aux États-Unis, une pauvre dame qui était si déprimée. Elle prenait tant de médicaments, elle était à l'hôpital pendant presque toute sa vie. Elle était là vers la quarantaine, cinquantaine. Et elle a parlé à ce jeune étudiant, elle lui a dit « Pourquoi vous êtes si heureux ? Moi, j'en ai assez de vous voir là si heureux. Chaque fois que vous venez, vous êtes si heureux. » Et il a dit « Oh, c'est parce que je me confie en Jésus-Christ. Avant, j'étais déprimé, mais il m'a rendu heureux, il a sauvé mon âme. » Mais le jour d'après, elle lui a dit « Dites-moi plus. » C'est là ce qu'il a fait. Et le jour d'après, elle voulait entendre plus. Et à la fin, cette dame a été sauvée. Et après qu'elle était sauvée, et faites attention parce que ce que je dis là, je ne suggère pas que ceci se passe toujours. Les gens qui souffrent de dépression, c'est terrible. Mais dans son cas, ceci l'a complètement libérée de sa tristesse. Et elle récupérait, elle se sentait mieux. Et il y a eu cette réunion de ces psychiatres et de ces psychologues et de toutes ces autres personnes. Ils lui ont demandé à cette dame, pourquoi est-ce que vous avez changé tellement? On ne vous a jamais vu ainsi. Elle a dit, c'est parce que j'ai rencontré Christ. Et ils lui ont dit, oh, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ne voulaient pas entendre ces choses. Oh, ce jeune homme, cet étudiant en médecine, m'a parlé de Christ. Et ils sont allés le voir. Vous avez fait quoi? Vous avez parlé de religion à cette dame? Et ils ont oublié que pour elle, ceci a transformé sa vie. Mais ce jeune homme a été exclu de cet hôpital, etc. Mais dans ce cas-là, cette pauvre dame qui était si déprimée, ce qui l'a amenée à lui poser cette question, pourquoi elle était si heureuse? Il se réjouissait dans le Seigneur. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur, dit l'apôtre Paul, parce que ceci parle à ceux qui ne sont pas sauvés, parce que ceux qui sont perdus veulent savoir pourquoi vous avez une telle attitude envers la vie, pourquoi vous avez une telle force intérieure, quelque chose pour vous soutenir, quelque chose qu'ils n'ont pas. Ainsi, chers amis, non seulement c'est notre dette envers Dieu que de nous réjouir, non seulement c'est bon pour nous, mais également ceci nous donne une bonne perspective sur la vie et également ceci parle à ceux qui ne sont pas sauvés. Et c'est là ce que nous considérons au verset 16, « Soyez toujours joyeux ». Le huitième point, la huitième responsabilité d'un chrétien. Et le neuvième point au verset 17, « Priez sans cesse ». Et ensuite le dixième point au verset 18, « Rendez grâce en toutes choses, car telle est la volonté de Dieu en Jésus-Christ à votre égard ». Ensuite, « N'éteignez point l'esprit ». Oh, nous allons considérer ces choses, que cela signifie. Ensuite, ne méprisez point les prophéties. Nous n'avons pas les prophéties de prophètes de nos jours, mais nous les avons dans les Écritures. Éprouvez toutes choses, retenez ce qui est bon. Ensuite, au verset 22, abstenez-vous de toute apparence de mal. Et avec toutes ces responsabilités, la responsabilité numéro 15, abstenez-vous de toute apparence de mal. Nous allons étudier ces choses la prochaine fois. Nous avons considéré les huit premières responsabilités d'un chrétien. Et le résultat, c'est au verset 23. « Or que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier. » C'est une liste complète. C'est un abrégé de Paul sur la conduite d'un chrétien. « Et que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, et que tout ce qui est en vous, l'esprit, l'âme et le corps, soit conservé irrépréhensible. » Lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ, vous aurez son aide pour accomplir ce verset 23. Au verset 24, celui qui vous a appelé est fidèle et il le fera. Il nous rendra capables d'accomplir toutes ces choses par son aide. Et ensuite, nous serons bénis et utilisés par lui. Ainsi, nous avons considéré ces choses. Soyez enseignables, laissez-vous enseigner, soyez en paix et procurez la paix et reprenez ceux qui sont déréglés, mais consolez, réconfortez ceux qui manquent d'assurance. Soyez patients envers tous les hommes. N'ayez jamais un esprit de vengeance, mais poursuivez le bien et réjouissez-vous toujours. Et toutes ces choses peuvent être faites par l'aide de Dieu. Une liste si pratique, extraordinaire, un résumé merveilleux de toutes ces responsabilités d'un croyant. Et nous avons considéré la moitié de cette liste. Que Dieu nous aide et nous rende capables de progresser dans ces choses.